Bon, on va revenir maintenant à la politique française. On va s'intéresser à la santé de ceux qui nous ont gouvernés, des présidents malades qui ont dirigé la France. Pompidou, Mitterrand, Chirac. Est-ce qu'on doit tout savoir sur la santé des candidats? Dernier exemple en date, nous sommes en février 2023. Édouard Philippe n'est plus Premier ministre d'Emmanuel Macron. Mais tout le monde l'a vu, tout le monde s'interroge sur son changement physique et le maire du Havre s'explique face à Bruce Toussaint sur BFM TV.
Est-ce que c'est un sujet d'ailleurs pour vous de faire une télévision en quelque
non,
sorte,
non, non,
d'apparaître?
Non, non, ça, en fait ça ne devrait pas être un sujet, mais je vois bien que c'en est un, donc bah, quand il y a un sujet, il faut le traiter. Hein, donc.
Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui m'arrive?
Expliquez-nous.
Voilà ce qui m'arrive.
Vous avez perdu vos sourcils.
J'ai perdu mes sourcils.
La moustache aussi.
Oui, la moustache est partie. Je ne sais pas si elle reviendra, mais ça m'étonnerait. Je suis atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. Ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux.
Est-ce que cette maladie peut vous handicaper pour votre carrière politique et la suite de votre carrière?
Je crois pas du tout. C'est une histoire de poils, quoi. Ça va, quoi. C'est pas non plus. Non, mais ça n'est pas grave.
Mais si vous le faites répondre aujourd'hui aussi, c'est peut-être pour faire taire certaines rumeurs.
Bah, vous trouverez toujours des gens un peu misérables pour expliquer que derrière ça, il doit y avoir quelque chose d'un peu plus sérieux.
Ouais.
C'est la vie.
On va en discuter maintenant dans le signé consigné avec Charles. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Patrice Duhamel. Donc bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Duhamel. Le crépuscule des dieux, les maladies des présidents, dernier mystère. Le livre est aux éditions de l'Observatoire. Charles, là on va rentrer en campagne présidentielle. Est-ce qu'on doit tout savoir de la santé de ceux qui veulent aller à l'Élysée ou pas?
Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas et je crois que justement ces travaux montrent que les hommes d'État peuvent parfaitement régner, gouverner, sans être forcément dans une santé de fer. Bah oui, je suis désolé.
Le livre démontre l'inverse. C'est-à-dire que certains de nos présidents n'auraient jamais dû rester à l'Élysée.
Oui, mais moi, je suis pas
malade.
D'accord. Bah, je suis pas d'accord.
Parce qu'ils étaient plus en capacité de.
Je suis pas d'accord avec cette thèse parce que je pense qu'un président, pour moi, n'est pas un Premier ministre, que donc il n'est pas au four et au moulin nécessairement, et que s'il prend les bonnes décisions à long terme, par exemple, j'ai cru comprendre que Patrice Duhamel estimait que Georges Pompidou n'aurait probablement même pas dû commencer son mandat. Je pense que ça aurait été terrible pour la France que Pompidou ne soit jamais président. Je pense qu'en termes, ne serait-ce que de message, d'identité
politique... Même si son mandat a été écourté
oui,
par
mais, sa mort. Mais l'homme qu'il a été et ce qu'il a imprimé pour la suite, à mon sens, a beaucoup compté. Donc je ne souhaite
donc
pas.
Donc pas de transparence
moi,
en la matière.
Je ne souhaite pas savoir comment vont nos candidats. En revanche, quelque chose qui m'intéresse, par exemple, s'agissant d'Édouard Philippe, sans faire de la psychologie de comptoir, c'est que, à mon sens, c'est quelqu'un qui somatise et qui en fait manifeste son anxiété de devenir peut-être président par cette espèce de réaction physiologique, ou alors
ah
même
bah donc c'est intéressant alors,
ou alors c'est même
indication.
Ou alors c'est même une espèce de refus d'obstacle où en fait tout son corps refuse l'idée de supporter ces lourdes responsabilités. Mais moi je veux pas avoir leur bulletin de santé.
Patrice Duhamel, dans votre livre vous dites quand même que Jacques Chirac, François Mitterrand notamment, n'étaient plus en capacité,
et Georges Pompidou,
de présider à la fin de leur mandat.
Alors, il y a deux cas de figure. Il y a Georges Pompidou et François Mitterrand avec des analogies et des différences. Jacques Chirac, c'est moins grave. Il a eu un AVC qui n'était pas un énorme AVC, qui l'a beaucoup affaibli. C'est plus le même homme après l'AVC qu'avant.
L'AVC qui survient en 2005.
On est dans la bagarre Villepin-Sarkozy pour savoir qui va succéder. Enfin, qui pourrait succéder à Jacques Chirac. Et la manifestation, parce que je veux répondre sur la manifestation de la difficulté, voire de l'incapacité à prendre des décisions à tel ou tel moment. C'est ça, mon sujet. Jacques Chirac, dans la bagarre Villepin, il y a eu une grave crise des banlieues à l'automne 2005. Villepin et Sarkozy n'étaient absolument pas d'accord sur la manière de la gérer. Et Chirac était vraiment dans la difficulté la plus grande pour arbitrer entre eux.
Bon, ça pour faire preuve d'autorité.
Voilà, il n'avait plus l'autorité qu'il avait avant. Juste pour vous répondre, d'abord, je ne dis pas tout à fait que Georges Pompidou, que j'aimais beaucoup et que je connaissais un peu, vous voyez, c'est l'âge qui veut ça, n'aurait pas dû se présenter. Parce que lui il sait qu'il est très malade, il prend son risque.
avant même de se déclarer candidat.
Il sait qu'il est très malade à partir de octobre 68. Il sera candidat fin avril, après la démission de De Gaulle, fin avril 69. Donc, 7 mois
plus tard. Si j'ai bien compris, on lui dit même pas vraiment ce qu'il a comme maladie.
Si, si, il sait que c'est une maladie du sang. Mmh. Il sait qu'il a des malaises. Il sait qu'il a des hémorragies. Il sait qu'il est sous cortisone à haute dose avec des manifestations physiques. Et il sait qu'il y a des moments où il est épuisé. Il prend son risque. Il y va. OK. Il saura très vite après de quoi il s'agit sans connaître le nom de la maladie, mais peu importe, et que c'est une leucémie. Et il dira en 72, donc hein, presque 2 ans avant sa mort, à son fils médecin, qui le suit au quotidien, alors que le grand professeur dont j'ai eu le journal pendant tout au long de cette maladie, Jean Bernard, lui...
Je suis de loin.
Enfin, il le suit de loin, mais c'est le plus grand hématologue du monde. Mmh.
Il le consulte à peine, au sens physique du terme. Non,
c'est Georges Pompidou qui refuse de le voir, ben voilà. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il veut pas que ça se sache. Si on sait que Georges Pompidou est soigné par le plus grand hématologue, oui. On saura que c'est d'une gravité exceptionnelle. Et la deuxième raison, non négligeable, c'est qu'il ne veut pas entendre dans la bouche de ce professeur, il sait parfaitement ce qu'il pense, que cette maladie est létale et qu'il peut mourir à tout moment, comme il mourra le 2 avril 74. Mais je vais juste donner, je vais être rapide, deux exemples. Pour Mitterrand, le détournement d'avion, l'Airbus, Alger, Paris, le jour de Noël, 24 décembre 94. On est à 6 mois de son départ de l'Élysée. Absent du début à la fin. Il est allé se reposer à Venise. Il est dans les douleurs les plus épouvantables.
Donc là, il ne peut pas présider cette crise.
Le Premier ministre, Édouard Balladur, gère tout seul avec... le secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine. Le président est absent. Quand vous avez une affaire aussi grave...
Balladur et Védrine, c'est suffisant.
Ouais. Donc on n'a pas besoin de président, Charles, si je vous suis. Alors.
On a besoin de président pour prendre des grandes décisions.
C'est la reine d'Angleterre pour le président.
Terme. Non, c'est pour le long terme.
Pour Georges Pompidou, moi, je fais pas des critiques sur ces présidents. J'explique ce qui s'est passé. Après, chacun, vous deux... Ouais, on en tire les conclusions.
Oui, sauf Georges Pompidou, on ne sait pas ça, tout ça.
Non, mais dans le journal de Jean-Bernard, il dit qu'il y a eu un moment où le président délirait, où il se promenait dans son bureau en disant dévaluation, révaluation, révaluation, dévaluation.
Un peu comme Trump en ce moment.
Un autre moment où il est dans une période de confusion mentale. Il est président de la République, en exercice, et par exemple, il se couche tout habillé. Je veux dire, il y a des moments où il n'a plus les... Et il dit à son fils...
Chanel.
Il dit à son fils, à l'été 72, « Je suis foutu. Je suis foutu. » Et il dira à Édouard Balladur, qui à ce moment-là est secrétaire général de l'Élysée, début 74, on est à quelques mois de sa mort, un jour où Balladur lui dit « Là, il faut prendre une décision, voilà le dossier », Georges Pompidou lui répond « Je souffre trop, je suis incapable de prendre cette décision, faites-le ». Et il a eu la chance de tomber sur Balladur.
Mais là, on rentre dans une période électorale. Vous trouvez pas que c'est important pour l'électeur, pour qu'il sache précisément pour qui il va voter, de savoir le bulletin de santé, la santé de ceux qui présentent. Je prends un exemple. Jean-Luc Mélenchon aura 75 ans cet été. S'il était élu, il sortirait de l'Élysée à 80 ans, plus de 80 ans. C'est normal de savoir s'il est en capacité de présider.
Chacun
On peut pas simplement se fier à sa bonne mine à la télévision.
Chacun a son opinion. Moi, pardon, c'est peut-être une déformation professionnelle d'avocat ou je ne sais pas. Je considère que ça fait partie de la vie privée et qu'on n'a pas à voir le bulletin de santé, qu'on n'a pas à savoir si tel ou tel a je ne sais quelle maladie. Alors. Potentiellement, c'est humiliant pour l'intéressé, j'en sais rien. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas envie de savoir, si vous voulez. Et si vous voulez, regardez Churchill, par exemple. Churchill n'était pas un homme en bonne santé.
Si on avait publié son bulletin de santé,
il vivait dans son lit. Il buvait au moins une bouteille de champagne par jour,
comme un pompier.
Si ce n'est davantage.
Et du cognac.
Plus du cognac. Et il n'empêche que c'est quand même lui qui nous a sorti du nazisme.
C'est l'un des grands hommes de la guerre.
De la même manière, c'est moins glorieux, mais Staline qui était un abominable tyran, mais qui quand même tenait son pays d'une main de fer, était sans doute pas en très bonne santé. Il buvait probablement encore plus que Churchill. Donc moi, je préfère, si vous voulez, Churchill en mauvaise santé. Je préfère Churchill en mauvaise santé que je ne sais quel macroniste en bonne santé. Voilà.
Alors, deux choses. D'abord,
est-ce qu'il faut tout savoir de la santé des candidats?
Moi, je pense, que je dis dans la conclusion, je dis Pompidou et Mitterrand, dans les deux dernières années, qui est quand même beaucoup, et il se passait beaucoup de choses, n'avaient ni la force de présider en permanence, ils n'étaient plus physiquement en état d'exercer leurs responsabilités à 100%. Ils avaient des moments, des périodes de lucidité absolue. Et il y a des moments où ils n'étaient pas en mesure de prendre des décisions. Deuxième chose, là, vous dites, on n'est pas obligé de tout savoir. Moi, je pense que on ne peut pas mentir aux Français comme on l'a fait. Parce que si vous ajoutez 50 Pompidou, jusqu'à ce qu'on sache pour Mitterrand, disons 13 ans de Mitterrand, c'est beaucoup.
Pour Chirac, et on n'a pas menti.
Si, on savait pas qu'il était, on savait pas qu'il était aussi affaibli. Disons, ça fait une vingtaine d'années de mensonges d'État. Donc, entre dire, je veux pas tout savoir de la santé des présidents.
Et le mensonge.
Et accepter qu'il y a 20 ans pendant lesquels on ment aux Français, on
ne dit pas. Mais là, c'est en cours de mandat. Aussi, ce qui s'est passé. Donc, il faut aussi avoir la transparence, non pas avant l'élection, mais la transparence en cours de mandat aussi.
Oui.
On est d'accord.
Moi, dans la conclusion, ce que je suggère, j'en ai parlé à plusieurs très grands médecins, c'est au minimum, il n'y a rien de prévu d'applicable dans la Constitution aujourd'hui. Vous avez un président qui physiquement n'est pas en état de présider, il faut que le Premier ministre aille voir le Conseil constitutionnel en disant le président est out. Bon, c'est pas plausible.
Et que dit le Conseil constitutionnel dans ces cas-là?
Ils se déterminent.
Oh, moi, je veux le bulletin de santé des membres du Conseil constitutionnel. Non, mais, je suis pas sûr qu'il soit.
Ça, c'est un autre sujet.
Ce que je
préconise, c'est qu'il y ait au minimum les candidats pour 2027, ceux qui ont leur signature, les vrais candidats, la petite dizaine, j'imagine. Ça va s'écrémer quand même. Il y a un check-up. Après, libre à eux. De le rendre public, rendre public les résultats ou pas, mais s'ils le font pas, ça sera quand même un peu suspect. Et puis ensuite, dans le courant du mandat, ce qu'avait promis d'ailleurs Giscard après le drame de Pompidou, parce que ces hommes, ils ont eu, je reconnais, là on ne l'a pas évoqué, mais Pompidou et Mitterrand, ils ont eu un courage mais hallucinant. C'est presque de l'héroïsme de combattre la maladie avec des douleurs telles qu'ils les ont supportées pendant autant d'années.
C'est peut-être l'exercice du pouvoir qui les a aidés à tenir d'ailleurs aussi.
Et puis Mitterrand voulait battre le général de Gaulle sur son terrain. Ensuite, qu'il y ait deux bulletins de santé au minimum par an, et qu'ils soient pas des mensonges d'État. C'est pas, moralement, vous êtes un avocat, vous êtes un homme public, vous êtes un citoyen, vous êtes un électeur, vous êtes tout ça. Moralement, on peut pas accepter qu'il y a des mensonges comme il y a eu dans la vie politique française pendant 20 ans. Moi, ça me choque.
Je suis pas d'accord, c'est pas grave.
Je suis peut-être un peu naïf, mais enfin, quand même.
Je suis pas d'accord.
Là, en attendant, c'est le grand embouteillage, là, pour l'élection présidentielle. Alors, effectivement, ensuite...
Il y a des jeunes et des plus vieux.
Ça va de 30 ans à 60, bientôt 75 ans pour Jean-Luc Mélenchon, le 19 août prochain.
Il va avoir 75 ans.
19 août.
Il est en pleine forme, d'ailleurs.
Enfin, il a l'air, mais enfin, on n'est pas médecin.
Il n'y a que 47 candidats, ça va.
C'est le grand embouteillage. Alors, il y aura le fil des 500 signatures, c'est trop? Tous ces candidats potentiellement déclarés.
Moi, ce qui me surprend, c'est le nombre d'hommes et ou de femmes, on verra à l'arrivée, qui pensent qu'ils sont capables d'être président de la République. Est-ce qu'ils ont bien compris ce que c'était que d'être président de la République, d'être le chef des armées, d'avoir le seul pouvoir appuyer sur le bouton nucléaire,
de nommer
des premiers ministres, d'aller négocier les traités avec les présidents américains, russes, chinois, etc.
Mais Patrice, est-ce que l'âge est un critère?
L'expérience, je pense, est un critère, oui. Que l'expérience est un critère.
Donc plutôt un senior, alors.
Mais Georges Pompidou, quand il est décédé, je me souviens plus de son âge exactement, il avait une grosse soixantaine d'années, il n'était pas... Voilà, Mitterrand, c'était autre chose, il était âgé, il était très fatigué, il souffrait depuis plus longtemps, mais...
Charles, on sait que Charles, par exemple, vous dites que certains candidats à déclarer sont trop jeunes. Jordan Bardella ou Gabriel Attal, vous l'avez dit ici.
Oui, moi je les trouve trop jeunes, parce que je pense effectivement que c'est une charge très lourde, et que...
L'un a été Premier ministre quand même, et ministre de l'Éducation nationale, même en étant jeune.
L'autre est président de parti.
Il a fait des stages d'observation. Les stages de troisième.
Il connaît quand même les rouages de l'État.
Non, mais je le dis de manière un peu piquante.
Enfin, en tout cas, ils sont en bonne santé.
Je pense que
a priori.
Oui, sans doute, mais je honnêtement, je pense que.
Donc en fait, si
moi comme vous le savez,
il faut mieux voter Mélenchon. Alors si je vous écoute bien, si je vous suis.
Non, c'est pas ça. Mais je pense que Jordan Bardella est un adolescent, et je pense que Gabriel Attal effectivement est un jeune homme. Oui. Un peu vert, donc, disons, comme un bois vert, quoi. Il est un peu vert.
Et Édouard Philippe, ça va, il est assez vieux pour
Philippe,
vous.
Édouard Philippe, il a plus de cheveux, il a, d'accord. Voilà, je trouve que déjà, il y a un peu. Alors, non, mais parce que, mais... c'est pas n'importe quoi, comme vient de le dire Patrice Duhamel, c'est quand même pas n'importe quoi de présider au destiné d'un pays comme la France. Et moi, pour moi, il n'y a pas que l'âge, il y a aussi ce qu'on a fait dans sa vie. Oui. Est-ce qu'on a une expérience de l'existence humaine, un tout petit peu complexe, ou est-ce qu'au contraire, on a eu un parcours très rectiligne? J'observe que pour l'instant, tous ces candidats, il y en a peu qui ont eu une expérience un peu variée. Et ça m'inquiète aussi.
Moi j'ai suivi beaucoup de campagnes présidentielles. C'est un révélateur extraordinaire des forces et des faiblesses. Et là, la campagne, elle a démarré excessivement tôt. Là, Édouard Philippe qui se présente, Attal, etc. C'est rare qu'on se présente au présidentiel au mois de mai ou au mois de juin. Normalement, c'est septembre-octobre. Bon, on va voir sur...
Donc c'est un marathon qu'il va falloir tenir.
Oui, on est à 11 mois du premier tour. On va voir, c'est encore une fois, j'espère qu'il y en aura évidemment ici et ailleurs, des débats contradictoires. C'est là où on voit les forces et les faiblesses. Et à ce moment-là, on voit si on a l'expérience, la connaissance des dossiers, le sens du pays, la connaissance du pays. Moi, je crois que la connaissance du pays, c'est aussi important que l'expérience. Très important de sentir le pays, de sentir que s'il souffre, et si ça va
est-ce
mieux.
Est-ce qu'il a manqué à Emmanuel Macron?
Je pense que ça a manqué à Emmanuel Macron. Là, ça, oui.
Et d'ailleurs, il n'avait jamais été élu aussi. Donc vous plaidez plus pour quelqu'un qui a eu un parcours comme un peu François Mitterrand ou Jacques Chirac, c'est-à-dire un parcours d'élus locaux pour les deux hommes.
Ou Giscard, qui avait été élu
maire,
à moins de 20 ans, conseiller général, etc. Oui, je pense que... de sentir le pays, c'est absolu. De Gaulle, il n'avait pas été élu, mais il sentait le pays.
Oui.
Voilà, dans ses
carrières militaires aussi, et puis il avait vécu la guerre.
Est-ce que vous ne regrettez pas le classicisme incroyable des profils des candidats? Moi, c'est ça qui me frappe.
Macron, c'est quoi un candidat classique?
Je trouve qu'ils sont trop classiques.
C'est-à-dire?
Ils ont fait que de la politique dans leur vie, dans l'ensemble. La plupart ont jamais mis un orteil dans une entreprise. Alors que bon, c'est quand même le cœur battant du pays, c'est quand même le secteur
économique. Donc ça plaît pour la candidature de Michel-Édouard Leclerc, par exemple?
C'est-à-dire que moi, je suis un peu déçu en l'état du casting. On verra ce qui se passe, mais je suis un peu déçu en l'état du casting par le fait que on a des gens qui sans doute, qui n'ont jamais travaillé dans une boîte, par exemple. Je trouve ça dingue, alors que c'est aux entreprises qu'on demande de supporter l'effort national. En réalité, c'est vers elles qu'on se tourne pour l'emploi, pour la création de richesses, pour tout. Il y en a pas un qui est passé par une boîte. Donc c'est moi je trouve que c'est des profils très
très banal. Il y a beaucoup de ces candidats et beaucoup d'anciens présidents qui ont été maires dans des petites villes, des villes moyennes ou des grandes villes comme Chirac.
C'est déjà une expérience.
Et bien quand vous êtes maire, vous avez un peu l'expérience de tous les sujets. C'est pas la même chose que de diriger une PME ou une grosse entreprise, mais vous êtes vraiment au contact et vous avez des très grands sujets, des sujets moyens et des sujets de la vie quotidienne.
Mais par exemple, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été maire. Et pourtant, donc, il va avoir 75 ans.
Il a dû être conseiller général.
Il a une longue expérience.
Et Jean-Luc Mélenchon veut être un grand dictateur à la façon sud-américaine. Donc, il s'en fout d'avoir été.
Merci Patrice Duhamel d'être venu discuter et débattre avec Charles Consigny. Le crépuscule des dieux et les maladies des présidents. Dernier mystère aux éditions de l'Observatoire.